Eh bien, bonjour à toutes et à tous. Voilà, Père Lubot m'a demandé de vous parler dans le cadre de ces conférences de carême de l'homme. Et le thème de cette petite conférence, c'est la question que se pose le psalmiste. Qu'est-ce que l'homme pour que tu penses à lui? Alors vous allez voir, je vais m'inspirer pour parler principalement des trois premiers chapitres de la Genèse, Genèse 1, Genèse 2, puis on finira par Genèse 3, qui est le récit du péché originel. Mais vous verrez aussi que ce sera plus en arrière-fond, je ne le citerai pas ou que très peu, mon propos va s'inspirer énormément de Saint Jean-Paul II, de l'ensemble de ses écrits, de ses catéchèses sur la théologie du corps, et de beaucoup de ses encycliques ou lettres apostoliques. Voilà, j'ai été pétri par sa pensée, déjà quand j'étais jeune étudiant, puis ensuite dans mes études. Voilà. Donc, premier petit point en introduction, quand nous lisons le récit de la Genèse, le premier chapitre, hein, le catéchisme de l'Église catholique nous dit que nous sommes en présence d'un récit imagé. Voilà, c'est le terme employé par le catéchisme de l'Église catholique. Voilà, ça veut dire que nous ne sommes pas en face d'un récit historique. Hein, nous ne nous trompons pas de genre littéraire quand nous lisons la Genèse. Quand on veut approcher la vérité, il y a plusieurs chemins pour approcher la vérité, parce que la vérité est tellement riche qu'elle a de multiples facettes. Parmi les facettes de la vérité, il y a ce que les scientifiques essaient de nous dire, hein. Il y a ce qu'ils recherchent et ce qu'ils découvrent, même si aujourd'hui la science sait très peu de choses, hein, et elle n'est capable que de nous inventer des théories. Quand elle nous parle du Big Bang, elle nous donne simplement un récit. Qui est descriptif, ils essayent de comprendre ce qui s'est passé, mais on ne nous dit pas la vérité encore. C'est pas la vérité, c'est un modèle descriptif qui essaie de se rapprocher de ce qui s'est passé, mais c'est pas encore la vérité. Même si on est appelé à suivre ce que les scientifiques nous disent et découvrent progressivement. Eux, ils essaient de nous expliquer le comment. Comment les choses se sont passées. Nous, quand nous lisons la Genèse, nous n'essayons pas de répondre à comment ça s'est passé. On essaie de répondre à une toute autre question qui est pourquoi. Pourquoi? Pourquoi y a-t-il le monde plutôt que rien? Pourquoi y a-t-il l'homme et la femme plutôt que rien? Pourquoi y a-t-il le mal? On ne s'interroge pas sur comment le mal est arrivé, hein. On ne s'interroge pas sur comment l'homme et la femme sont arrivés. On ne s'interroge pas sur comment le monde est apparu. Donc ne nous trompons pas de questionnement, hein. Quand le questionnement est différent, ben la réponse va être différente. À la fois le point de départ, mais le point d'arrivée vont être différents. Voilà. Donc, là, cet après-midi, on va s'interroger surtout au pourquoi. Qui est cet homme? Qui est cette femme? Quelle est cette humanité? Qu'est-ce que l'homme que Dieu y accorde tant d'importance? Pour ça, je vais vous inviter à ce que nous relisions déjà les deux premiers versets de la Genèse, au tout début. Alors j'ai pris la traduction liturgique, hein, qui est celle que nous entendons lors de nos célébrations. Vous savez qu'il y a différentes traductions. Alors, je ne sais pas quelle est la meilleure, mais j'aime bien en utiliser qu'une, et une seule, celle que nous entendons d'habitude dans nos liturgies, pour que nous puissions les mémoriser. Qu'on puisse mémoriser quand on travaille un texte, c'est bien qu'on réentende les mêmes versets quand nous sommes à la messe, quand nous prions avec un bréviaire, ou voilà, que ce sont les mêmes versets que nous puissions habiter, qui puissent habiter notre mémoire, sur lesquels nous puissions méditer, même si d'autres traductions sont peut-être plus justes théoriquement. Et, voilà. Donc nous avons peur d'aller chercher dans d'autres traductions parfois. Mais là, donc, ça va être la traduction liturgique. Alors, les deux premiers versets nous disent « Au commencement, Dieu créa le ciel et la terre. » La terre était informe et vide, les ténèbres étaient au-dessus de l'abîme et le souffle de Dieu planait au-dessus des eaux. Là, il y a un premier point qui est bien surprenant. L'auteur biblique est en train d'essayer de nous expliquer que Dieu a tout créé en partant de rien, Et pourtant, au commencement, au moment où Dieu crée le ciel et la terre, il y a l'Esprit, et l'Esprit qui plane au-dessus des eaux. C'est étrange, hein ? Alors que Dieu crée tout en partant de rien, pourtant il y a déjà l'Esprit qui plane au-dessus des eaux. Alors, certains disent l'Esprit, d'autres le souffle. Voilà. C'est ce même souffle qui va être insufflé dans Adam quand Dieu va modeler Adam avec de la glaise et qui va lui envoyer ce même souffle à roi. Voilà. Alors aujourd'hui, je dirais, à la lumière de la Révélation, parce que nous ne pouvons plus lire la Genèse comme nos frères aînés, les Juifs, la lisaient, simplement à la lumière de la Révélation de l'Ancien Testament, nous lisons aujourd'hui le livre de la Genèse à la lumière de toute la Révélation, de la Révélation chrétienne, et donc à la lumière du Christ. Et pour nous, clairement, l'Esprit Saint, enfin, l'Esprit, le souffle, là, c'est bien l'Esprit Saint qui plane sur les eaux. Et je crois que, profondément, l'Esprit qui plane sur les eaux, mais tel, je veux dire, on n'est pas là en train d'expliquer le comment ça s'est fait, ni de voir que chronologiquement, mince, comment que ça se fait, qu'il y avait déjà quelque chose. C'est pas ça. Ce verset, il est en train de nous expliquer pourquoi. Vous voyez, c'est amusant, hein ? Pourquoi Dieu a créé le monde ? Eh bien, la première réponse qu'il nous a donnée, l'Esprit planait au-dessus des eaux. Hein, tout de suite, l'Esprit qui plane au-dessus des eaux, hein, ça nous fait penser tout de suite au baptême de Jésus, hein ? L'Esprit Saint qui va descendre sur les eaux du Jourdain au moment où Jésus reçoit le baptême. Donc vous voyez, on pourrait donner déjà comme première réponse pourquoi Dieu crée le monde en vue de l'Esprit Saint qui va descendre sur Jésus le jour de son baptême. On pourrait donner une deuxième réponse parce que l'Esprit Saint va descendre une nouvelle fois. Alors, j'aurais pu éventuellement déjà mentionner l'Esprit Saint qui va descendre sur Marie pour l'incarnation du Verbe de Dieu, hein. Voilà. Mais un autre motif que l'on aurait pu donner, pourquoi Dieu crée le monde, en vue de la Pentecôte, en vue de l'Esprit Saint qui va descendre sur les apôtres et sur l'Église. Et puis je crois qu'il y a une raison encore plus belle. Hein. Si vraiment l'Esprit qui plane sur les eaux doit être interprété comme l'Esprit Saint qui va descendre sur les eaux au moment du baptême, chacun d'entre vous peut dire, mais pourquoi Dieu a-t-il créé le monde pour que moi, un jour, je puisse recevoir le baptême? Pour que moi, un jour, je puisse recevoir l'Esprit Saint et devenir enfant de Dieu. Donc on peut dire quelque part, hein, pourquoi Dieu a-t-il créé le monde? Mais pour vous, pour chacun d'entre vous, personnellement, pour que chacun d'entre vous puisse devenir enfant de Dieu et recevoir le baptême. C'est pour moi que Dieu a créé le monde. Oui, il y a déjà un sujet extraordinaire d'émerveillement, hein, que chacun peut se dire et peut se dire légitimement. Pourquoi Dieu a-t-il créé le monde ? Mais pour moi. Pour que moi je puisse recevoir le baptême, pour que moi je puisse devenir enfant de Dieu avec l'Esprit Saint qui descendra sur moi. Et d'une façon plus large, on peut dire pourquoi Dieu a-t-il créé le monde ? Regardons quand descend l'Esprit Saint. Je ne sais pas si vous étiez là ce matin. Et si vous étiez là ce matin à la messe, je ne sais pas si vous avez été suffisamment observateur pour voir descendre l'Esprit Saint. Il est descendu, l'Esprit Saint, ce matin. Il est descendu sur le pain et le vin, pour que le pain et le vin deviennent le corps et le sang du Christ. Il est descendu sur chacun d'entre nous, au moment de la deuxième épiclèse, pour que nous soyons remplis de l'Esprit Saint. C'est l'expression qu'on trouve dans la troisième prière eucharistique, quand nous serons nourris du corps et du sang du Christ et remplis de l'Esprit Saint. Donc on pourrait répondre aussi, pourquoi Dieu a-t-il créé le monde ? En vue de la célébration de l'Eucharistie, où l'Esprit Saint pourrait descendre et redescendre chaque jour sur chacun d'entre nous, pour nous faire vivre de sa vie, pour nous imprégner de sa vie divine. Oui, c'est le premier petit verset qui nous en dit déjà long sur pourquoi Dieu a-t-il créé le monde. Voilà. En vue de l'incarnation de son Fils. Que l'Esprit Saint puisse vraiment descendre sur l'Église et que nous puissions vivre de l'Église et être vraiment enfants de Dieu et l'être en vérité. Pour vous en convaincre, Paul partage cette pensée. Je vais vous relire l'hymne aux Éphésiens, au chapitre 1er. Béni soit Dieu le Père de notre Seigneur Jésus-Christ. Il nous a bénis et comblés des bénédictions de l'Esprit au ciel dans le Christ. Il nous a choisis dans le Christ avant la fondation du monde pour que nous soyons saints immaculée devant lui dans l'amour. Je vais répéter ces deux versets parce qu'ils sont extraordinaires. Hein. Béni soit Dieu, le Père de notre Seigneur Jésus-Christ. Il nous a bénis et comblés des bénédictions de l'Esprit au ciel dans le Christ. Il nous a choisis dans le Christ avant la fondation du monde. Vous voyez, quand je vous disais que l'Esprit Saint qui plane sur les eaux, c'était en vue de votre baptême. Mais qu'est-ce que nous dit Paul ? Il nous dit que avant la création du monde, avant la fondation du monde, Dieu a déjà pensé à vous. Avant de créer le monde, Dieu a pensé à chacun d'entre vous. Pour que par l'Esprit Saint et en Jésus-Christ et par Jésus-Christ, vous deveniez enfants de Dieu. Pour que par Jésus-Christ, vous deveniez des saints immaculés dans l'amour. Pas extraordinaire ça ? Avant de créer le monde, Dieu a déjà pensé à chacun d'entre vous. Et il a voulu que vous puissiez recevoir l'Esprit Saint, que vous puissiez être sanctifié, que vous puissiez être immaculé. Tout était programmé, tout était prévu en Jésus-Christ, par Jésus-Christ. Le mystère de l'incarnation était déjà dans le plan de Dieu. Et les pères de l'Église aimaient bien nous dire que quand Dieu a modelé Adam, il regardait le visage de son fils. Et il a modelé Adam à l'image de ce que serait son fils incarné. Vous trouvez ça sur un tympan à Vézelay, sur un des piliers, une belle sculpture qui met ça en évidence. Voilà. L'Esprit planait sur les eaux. Le projet de Dieu, Dieu a pensé à chacun d'entre nous. Voilà. Nous ne sommes pas simplement les fruits du hasard, nous ne sommes pas simplement les fruits de l'amour de nos parents ou d'un projet que Dieu aurait pu avoir il y a quelques années quand nous avons été conçus. Non, dès avant la création du monde, dès avant la fondation du monde, Dieu nous a voulu chacun et nous a aimés. Et c'est pour ça que, vous voyez, l'Esprit Saint, hein, c'est comme un aigle. Tu vois, j'ai vu un aigle qui plane et qui attend qu'une chose, c'est d'apercevoir le pauvre petit lapin là, qui va croquer, mais il plane avant de pouvoir descendre. Mais l'Esprit Saint, il est là, il plane et il attendait le jour de votre baptême. Il attendait ce matin, l'heure de notre Eucharistie, pour descendre sur le pain et le vin. Dieu a créé le monde en vue de la descente de l'Esprit Saint. Voilà. Deuxième verset. Hommes et femmes, il les créa. Nous sommes toujours au premier chapitre de la Genèse, versets 26 et 27. Dieu dit, faisons l'homme à notre image, selon notre ressemblance, qu'il soit le maître des poissons de la mer, des oiseaux du ciel, des bestiaux, de toutes les bêtes sauvages, et de toutes les bestioles qui vont et viennent sur la terre. Dieu créa l'homme à son image, à l'image de Dieu il le créa, il les créa hommes et femmes. Voilà. Nous avons tous été créés à l'image et à la ressemblance de Dieu. Ce qui est intéressant, c'est tout à l'heure qu'il nous fallait relire toujours la Genèse à la lumière de la révélation de Jésus-Christ. Hein. Quand Dieu dit « faisons l'homme », ce faisant, ce pluriel, hein, il vous fait tout de suite penser, bien sûr, au mystère trinitaire. Créons l'homme et la femme, créons chaque homme, créons l'humanité, à l'image de ce mystère même de Dieu qui est amour, de Dieu qui est communion. Hein, ce mystère d'amour que nous découvrons en Dieu, c'est un Père qui aime son Fils, un Fils qui aime son Père, et l'Esprit Saint qui est ce lien d'amour entre le Père et le Fils. Mais qu'est-ce que c'est que cet amour entre le Père et le Fils ? La nature même de cet amour, c'est le don total de soi. Ça, je crois, c'est quelque chose d'essentiel qu'il nous faut que nous retenions sur le mystère de la Trinité, sans lequel nous ne pouvons rien comprendre à notre vocation humaine. Qu'est-ce que c'est que Dieu amour ? C'est un Dieu qui est Père et se donne totalement à son Fils. Un don total de soi. Et il ne garde rien pour lui. Il est tellement totalement donné que le fruit de ce don de lui-même, qui est le Fils, et la plénitude de la divinité. Il y a la plénitude de la divinité dans le Verbe, dans le Fils unique de Dieu, parce que ce qu'il est, c'est le don total de ce que le Père est. Si nous étions dans des considérations matérielles humaines, on verrait le Père qui se vide complètement pour que le Fils soit pleinement Dieu. Voilà. Mais comme en même temps, le Fils, puisqu'il est pleinement Dieu et pleinement amour, et donc pleinement don de lui-même, il est le, Ça n'a pas de sens en Dieu. Immédiatement, il se redonne au Père. Et voilà, le Père n'est Père que dans la mesure où il engendre son Fils, et le Fils n'est Fils que dans la mesure où il se redonne au Père. Si le Père cessait d'être Père, il n'y aurait plus rien. Et le Fils ne serait plus là, puisque le Fils est le fruit de ce don total. Donc vous voyez, nous avons ce mystère d'amour. L'amour, c'est se donner totalement. C'est ce que nous découvrons quand nous contemplons le mystère trinitaire. L'amour, c'est un don total de soi. Et nous avons été créés à l'image de ce mystère de l'amour de Dieu, qui est don total de soi pour l'autre. Ce qui fait dire au Concile Vatican II, dans Gaudium et Spes, mais là je vais faire une petite parenthèse avant de vous lire le texte, simplement pour vous dire que ce texte a été rédigé en grande partie par un évêque, et tous les évêques du monde entier qui étaient réunis pour le Concile, et l'évêque qui a eu la charge de rédiger cette petite partie du Concile s'appelait Karol Wojtyła. Et j'ai retrouvé des extraits de ce passage dans des écrits qu'il avait déjà fait beaucoup plus tôt, en 1957, alors qu'il était simplement évêque à Cracovie. Et ce qui est très amusant, c'est que ce texte de Gaudium et Spes 24, que je vais vous lire là dans quelques instants, c'est un texte qui est cité dans presque toutes ces encycliques ou lettres apostoliques. Pour vous dire à quel point ce texte du Concile tient à cœur à Saint Jean-Paul II. Il s'est même permis, dans une lettre apostolique sur la dignité de la femme, Mulieris Dignitatem, de corriger le texte du Concile. S'il se permet de le corriger, c'est qu'il savait pourquoi il pouvait se le permettre. Voilà, alors je vais vous le lire. Donc le texte du Concile dit « Allons plus loin. Quand le Seigneur Jésus prie le Père pour que tous soient un, comme nous sommes un. » Saint Jean, chapitre 17, versets 21 et 22. « Il ouvre des perspectives inaccessibles à la raison » et il nous suggère qu'il y a une certaine ressemblance entre l'union des personnes divines et celle des fils de Dieu dans la vérité et dans l'amour. Je vais vous relire ce petit verset, parce qu'il est... C'est vraiment le cœur même de la pensée de Saint Jean-Paul II. Donc il dit, allons plus loin. Quand le Seigneur Jésus prie le Père pour que tous soient un, comme nous sommes un, que tous soient un, comme. Il dira... À d'autres endroits, ce comme, ce n'est pas un élément de comparaison, c'est la mesure de notre unité, c'est la mesure de l'amour que nous devons avoir les uns pour les autres. Ça n'introduit pas une comparaison, mais ça nous donne la mesure de l'amour que nous devons avoir les uns pour les autres. Donc, il ouvre des perspectives inaccessibles à la raison et nous suggère qu'il y a une certaine ressemblance entre l'union des personnes divines et celle des fils de Dieu dans la vérité et dans l'amour. Il poursuit, cette ressemblance montre bien que l'homme, seule créature sur terre que Dieu a voulu pour elle-même, ne peut pleinement se trouver que par le don désintéressé de lui-même. Alors là où il corrige, c'est l'homme ne peut pleinement se trouver que par le don désintéressé de lui-même. Et il corrige dans Mulieris Dignitatem, l'homme ne peut s'épanouir. Voilà, c'est la petite nuance qu'il y a entre se trouver ou s'épanouir que par le don désintéressé de lui-même. Ce qui fait que nous sommes à l'image et à la ressemblance de Dieu, fait que nous sommes appelés à aimer et à être aimés, mais à aimer dans le don de nous-mêmes, dans le don désintéressé de nous-mêmes. Il n'y a que lorsque nous nous donnons que nous trouvons le sens de notre vie. Il n'y a qu'en nous donnant, pleinement, que nous trouvons le sens de notre vie. Il n'y a pas d'autre chemin du bonheur que celui-là. Il n'y a pas d'autre chemin d'épanouissement que celui du don de soi. Même si notre nature humaine, malheureusement blessée par le péché originel, aura tendance à chercher le bonheur dans plein d'autres directions, il n'y a qu'un seul chemin qui peut nous donner le vrai bonheur, c'est de nous donner pleinement, de nous donner totalement. Parce que nous sommes à l'image de Dieu. Et ça, vous voyez, ça c'est quelque chose qui va être vrai pour tout le monde. Là, nous sommes dans un message qui a une vérité, qui contient une vérité universelle. Ce n'est pas un message qui est réservé aux chrétiens, aux catholiques, C'est un message qui s'adresse à tout homme. C'est vrai pour tout homme. Tout homme, quel qu'il soit, qu'il ait une autre religion ou même qu'il soit athée, ne pourra s'épanouir que dans le don de lui-même, ne pourra se trouver qu'en se donnant. Il n'y a pas d'autre chemin pour lui. Parce que, qu'il le veuille ou non, qu'il le croit ou non, je dirais, peu importe. Puisque, dans sa nature, il est créé à l'image et à la ressemblance de Dieu qui est amour. Qu'il le sache ou qu'il ne le sache pas, peu importe. Qu'il le croit ou qu'il ne le croit pas, peu importe. Le seul chemin qui lui permettra de s'épanouir, c'est l'aimer. Je me souviens d'une conversation un jour entre Mère Teresa et un musulman qui était extrêmement puissant, extrêmement riche en Inde, et qui un jour était là avec Mère Teresa. Ils étaient tous les deux là, à quatre pattes, dans un caniveau, en train de soigner un homme dont la jambe a été en partie mangée par un rat. Et à un moment, dans cette situation, cet homme, ce musulman, demande à Mère Teresa, « Mais pourquoi vous ne faites rien pour que je me convertisse ?» C'est marrant, vous ne faites rien pour que je devienne catholique. Et Mère Teresa, je ne m'intéresse pas, moi. Ces choses qui comptent pour moi, c'est que vous aimiez. Que votre cœur s'ouvre à l'amour. Une fois que votre cœur sera ouvert à l'amour, ce sera le problème de Dieu. Mais ce n'est pas le mien. Vous voyez, c'est la nature profonde de notre être, c'est d'aimer. Et d'aimer sans compter. D'aimer dans ce don de nous-mêmes. Alors ça va être vrai, vous voyez, ce que dit Jean-Paul II, c'est vrai. Et puis, de façon particulière, de ça découle toute la théologie du couple, de l'amour conjugal, mais de cette approche-là découle aussi toute la doctrine sociale de l'Église. De ça devrait découler tous les rapports qui gèrent une société à tous ses niveaux. Entre nous, au sein d'une paroisse, au sein d'une structure économique, au sein d'une société civile, d'une société politique. On est tous appelés. Hein. Un chef d'entreprise devrait essayer de vivre ça à la fois avec les personnes qu'il gère dans sa boîte, avec ses clients, avec ses fournisseurs, avec ses concurrents. Qu'est-ce que nous sommes appelés d'abord à vivre ? Alors, bien sûr, avec le devoir de faire tourner sa boîte, hein. Pour le bien de chacun, pour le bien de chacun des employés, de vouloir le bien de ses frères, c'est vouloir leur permettre de trouver du travail, d'avoir un métier qui rapporte de quoi manger à la maison, bien sûr. Hein. Et oui, c'est ça l'élément central. Quand le pape François nous parle des immigrés, qu'est-ce qu'il nous dit d'autre, hein ? Il ne nous donne pas la solution générale pour gérer les problèmes de fond, hein. Là, il y a autre chose en arrière-fond sur la mondialisation. On ne peut pas aborder la question des immigrés sans réfléchir d'abord à la source du problème qui est la mondialisation que nous vivons aujourd'hui. Qui n'est pas forcément la bonne, mais si on n'attaque pas le problème à la source, on a les problèmes finaux qui arrivent. Hein. Mais une fois qu'il y a un immigré qui est là, est-ce que je le considère comme un frère ? Est-ce que je suis prêt à me donner pour lui, quel qu'il soit ? Et je dirais, à la limite, quelle que soit sa religion. Vous allez voir, le verset suivant va être encore plus embêtant par rapport à cette interprétation. Chapitre 2 de la Genèse. Voici l'os de mes os, la chair de ma chair. Alors, je vais vous lire le petit passage qui entoure. Hein. Le Seigneur Dieu dit... Voilà, je vous passe la première partie qui est Dieu qui modèle Adam avec de la glaise, qui lui insuffle son esprit et lui confie la mission de donner un nom à toute chose. Voilà, puis le pauvre Adam, il déprime tout seul dans son coin parce qu'il voilà, a tout ce qu'il faut, mais il rentre le soir chez lui et il déprime. Petite parenthèse, on pourrait faire un parallèle, je pense que Saint Jean-Paul II, quand il commande ça, à ça en arrière-fond, on peut se rappeler le jeune homme riche. Hein. Vous connaissez bien cette rencontre du jeune homme riche avec Jésus. Hein. Cet homme qui a tout ce qu'il faut. Qui est même génial, ce mec. Les 10 commandements, il a réussi à les respecter toute sa vie. Moi, je ne peux pas le dire. Je ne sais pas s'il y a quelqu'un parmi vous qui peut dire « Depuis le début de ma vie, j'ai réussi à respecter tous les 10 commandements. » C'est quand même extraordinaire, ce gars. Hein. Et pourtant, il lui manque quelque chose. Il lui manque quelque chose. Qu'est-ce que je dois faire pour être sauvé? Il sent au fond de lui-même, hein. Il y a une tristesse. Et finalement, il va repartir tout triste parce qu'il a de grands biens. Comme Adam, il a de grands biens. Il a tout ce qu'il faut pour vivre. Et il fait tout correctement, le gars. C'est génial. Il lui manque l'essentiel. Il lui manque pourtant l'essentiel. Donc il n'est pas bon que l'homme soit seul. Je vais lui faire une aide qui lui corresponde. Alors, une aide qui lui corresponde. Il a besoin de rien. Hein. Il n'a pas besoin de quelqu'un pour lui faire la cuisine ou le ménage ou je ne sais pas quoi. Hein. Avec de la terre, le Seigneur Dieu modela toutes les bêtes des champs et tous les oiseaux du ciel. Et il les amena vers l'homme pour voir quel nom il leur donnerait. C'était des êtres vivants. Et Dieu donne à chacun un nom. L'homme donna donc leur nom à tous les animaux, les oiseaux du ciel et toutes les bêtes des champs, mais il ne trouva aucune aide qui lui corresponde. Alors le Seigneur Dieu fit tomber sur lui un sommeil mystérieux, et l'homme s'endormit. Le Seigneur Dieu prit une de ses côtes, puis il referma la chair à sa place. Avec la côte qu'il avait prise à l'homme, il façonna une femme et l'amena vers l'homme. L'homme dit alors, « Cette fois-ci, voici l'os de mes os, voici la chair de ma chair. » On l'appellera femme Isha. Elle fut tirée de l'homme Ish. Voici l'os de mes os, voici la chair de ma chair. L'émerveillement. Adam découvre à ses côtés Ève. Il se découvre aimé de quelqu'un. Et il se découvre capable d'aimer quelqu'un. Ève est celle qui va donner du sens à sa vie. Il sait tout faire parfaitement. Et il a tout fait parfaitement. Mais sa vie n'a pas encore le sens qu'elle doit avoir. Le sens de sa vie, c'est d'aimer et d'être aimé. Le sens de sa vie, c'est de se donner, non pas simplement de faire. Et ce jeune homme riche, qu'est-ce qui lui manque? Va, vends tout ce que tu as, donne-le aux pauvres et suis-moi. Aime comme moi j'aime. Adam, tout d'un coup, fait l'expérience de l'émerveillement. Aimer l'autre, c'est s'émerveiller devant lui. Il y a quelques couples là. Et est-ce que vous vous émerveillez en couple? Est-ce que vous êtes capable le matin en vous réveillant de vous émerveiller devant l'autre? Voilà ce que c'est que... Mais si on va plus loin, si on se dit aimer, c'est s'émerveiller devant l'autre. Je ne sais pas si vous voyez où je veux en arriver. Hein. Mais le malade, la personne handicapée, le clochard, le SDF, l'immigré, est-ce que je suis capable de m'émerveiller devant lui et de lui montrer que je m'émerveille de son existence et qu'il soit là? Je suis heureux que tu sois mon frère, tu es l'os de mes os, tu es la chair de ma chair, tu es mon frère. Et je suis heureux d'être là pour toi. Est-ce qu'il n'est pas celui qui va finir par... finalement, nous donner du sens à notre vie? Moi qui me pose tant de questions sur ma vie, mais il est celui qui va me permettre d'aimer. Béni sois-tu d'être là pour me permettre de découvrir le sens de ma vie qui est d'aimer en me donnant. Il n'y a rien de plus suicidaire que de dire dehors les étrangers. C'est un suicide personnel. Je me suicide en disant ça. Je rejette celui qui me permet de découvrir le sens de ma vie et qui me permettrait de rejoindre ma vocation qui est d'aimer. En disant ça, je ne suis pas en train de régler le problème de l'immigration, hein, qui est un autre sujet. Hein. C'est un tout autre sujet qu'il faudrait traiter bien en aval, comme je vous le disais tout à l'heure, avec la question de la mondialisation derrière. Hein. Là, je suis en train de traiter simplement notre place, notre position à nous, mais qui suis-je et comment l'autre... Et celui qui me révèle qui je suis et m'apprend à aimer. Qu'est-ce que l'homme? Est-ce que nous acceptons d'être pleinement image et ressemblance de Dieu qui est amour, de Dieu qui est don de lui-même, de Dieu qui est émerveillement? Le Père qui s'émerveille devant son Fils, le Fils qui s'émerveille devant le Père. C'est tout le mystère trinitaire que nous sommes appelés à vivre au quotidien à vivre entre nous. Si je ne m'émerveille pas devant vous, et si vous ne vous émerveillez pas devant moi, il y a quelque chose qui ne va pas. C'est qu'on a loupé quelque chose de notre vocation. C'est qu'on a les yeux un peu aveuglés. C'est qu'on est comme le jeune homme riche, qu'on repart tout triste parce qu'on a de grands biens et qu'on ne veut peut-être pas partager. Où est-ce que j'en suis ? Je vais surveiller un peu le temps, tu vois. J'ai encore combien de temps, là ? Un quart d'heure. Voilà. Alors, tout ça, c'est bien beau, hein. Mais malheureusement, il y a l'histoire de la pomme. Je vous relis le récit de la Genèse ou pas ou... Le serpent était le plus rusé de tous les animaux des champs que le Seigneur avait fait. Il dit à la femme, « Alors, Dieu vous a vraiment dit, vous ne mangerez d'aucun arbre du jardin ?» La femme répondit au serpent, « Nous mangeons les fruits des arbres du jardin. Mais pour le fruit de l'arbre qui est au milieu du jardin, Dieu a dit, « Vous n'en mangerez pas, vous n'y toucherez pas, sinon vous mourrez. » Le serpent dit à la femme, « Pas du tout, vous ne mourrez pas. Dieu sait que le jour où vous en mangerez, vos yeux s'ouvriront et vous serez comme des dieux, connaissant le bien et le mal. » La femme s'aperçut que le fruit de l'arbre devait être savoureux, qu'il était agréable à regarder et qu'il était désirable. Cet arbre, puisqu'il donnait l'intelligence. Elle prit de son fruit et en mangea, et elle en donna aussi à son mari, et il en mangea. Alors leurs yeux à tous deux s'ouvrirent et ils se rendirent compte qu'ils étaient nus. Ils s'attachèrent les unes aux autres des feuilles de figuier, et ils s'en firent des pagnes. Ils entendirent la voix du Seigneur Dieu qui se promenait dans le jardin à la brise du jour. L'homme et sa femme allèrent se cacher au regard du Seigneur Dieu, parmi les arbres du jardin. Le Seigneur Dieu appela l'homme et lui dit, « Où es-tu donc ?» Il répondit, « J'ai entendu ta voix dans le jardin. J'ai pris peur parce que je suis nu et je me suis caché. » Le Seigneur reprit, « Qui donc t'a dit que tu étais nu ? Aurais-tu mangé de l'arbre dont je t'avais interdit de manger ?» L'homme répondit, « La femme que tu m'as donnée, c'est elle qui m'a donné du fruit de l'arbre et j'en ai mangé. » Le Seigneur dit à la femme, « Qu'as-tu fait là ?» La femme répondit, « Le serpent m'a trompé et j'ai mangé. » Alors le Seigneur Dieu dit au serpent, « Parce que tu as fait cela, tu seras maudit parmi tous les animaux et toutes les bêtes des champs. » Voilà. Ce péché originel, ce péché des origines, comme le disait Jean-Paul II, mais je crois déjà Paul VI, c'est le tentateur qui vient. Quand le serpent vient tenter Ève, il vient introduire un doute dans l'esprit de la femme par la succession de trois mensonges. Premier mensonge, « Alors, Dieu vous a vraiment dit, vous ne mangerez d'aucun arbre du jardin. » Premier mensonge, hein, l'interdiction ne portait que sur l'arbre de la connaissance du bien et du mal. Deuxième mensonge, « Pas du tout, vous ne mourrez pas. » Dieu a bien dit, vous mourrez si vous en mangez. Troisième mensonge, mais Dieu sait que le jour où vous en mangerez, vos yeux s'ouvriront et vous serez comme des dieux. Troisième mensonge. Et là, on s'aperçoit, rappelez-vous ce que je vous disais au tout début, notre vocation, c'est en Jésus-Christ et par Jésus-Christ, nous sommes prédestinés à devenir enfants de Dieu. Et qu'est-ce que Satan propose comme tentation ? Il ne propose qu'une mauvaise caricature. Ce n'est qu'une mauvaise imitation. L'imbécile n'est capable que de nous proposer de mauvaises imitations de la vérité. Alors que nous sommes appelés à devenir enfants de Dieu, il nous propose bêtement de n'être que comme des dieux. C'est qu'une mauvaise imitation, hein. Que fait le service des douanes, là ? Il nous trompe sur la marchandise, quoi. Le doute, induit par le mensonge, conduit au rejet de Dieu et donc à l'orgueil. Ce qui était don de Dieu, le bien, la vérité. Je veux pouvoir l'acquérir tout seul. Je n'ai pas besoin de Dieu. C'est sans lui que je veux y arriver. D'autant plus que l'enjeu est de devenir comme des dieux. Quelle prétention orgueilleuse ! La caricature est grossière. Le mensonge est gros. Prédestiné à recevoir la divinité comme un don de Dieu, l'homme prétend s'approprier cette qualité tout seul. C'est la prétention de l'homme qui le conduit à cette désobéissance aveugle. Car ce commandement de Dieu auquel il désobéit est en fait une limite infranchissable. L'homme, de par lui-même, ne peut devenir Dieu tout seul. Aveuglé par le prince du mensonge, il s'est enfermé dans cette désobéissance. Les exemples qui suivront, avec Caïn et Abel, puis la tour de Babel, confirmeront bien cette désobéissance de l'homme qui veut arriver à se construire lui-même sans Dieu. Mais le piège du démon va encore plus loin que l'on aurait pu l'imaginer. Résumons l'état de la situation. Première étape, il introduit le doute, rejet de la confiance en Dieu. Deuxième étape, il conduit à la désobéissance au commandement de Dieu. Troisième étape, la consommation du fruit du péché. Ce fruit, les mots sont importants quand même. Ce fruit, c'est le fruit de l'arbre de la connaissance du bien et du mal. Ce fruit est donc la connaissance du bien et la connaissance du mal. Pour saisir l'enjeu, il faut revenir au sens du mot connaissance. Il ne s'agit pas ici simplement d'un savoir, de savoir ce que sont le bien et le mal, afin de pouvoir choisir entre le bien et le mal. Il s'agit de connaître le bien et de connaître le mal. Le mot connaissance a une signification toute particulière dans le livre de la Genèse. On nous dit « Adam connut Ève et ils eurent un enfant ». Adam et Ève, en s'unissant, ne font qu'une seule chair. Ils entrent dans la connaissance l'un de l'autre. Dans la connaissance, il y a une unité entre celui qui connaît et l'objet de la connaissance. Connaître le bien, c'est ne plus faire qu'un avec le bien. Connaître le mal, c'est aussi ne faire qu'un avec le mal. La vocation à la sainteté d'Adam et Ève est de connaître le bien, de ne plus faire qu'un avec ce bien qu'ils reçoivent comme un don, un cadeau de Dieu. Rejetant la confiance originelle en Dieu, ils veulent connaître le bien et le mal, oubliant que cela signifie ne plus faire qu'un aussi avec le bien et avec le mal. Il ne s'agit pas d'un savoir à acquérir, mais de se laisser marquer par le mal qui laisse une empreinte blessant Adam et Ève. Le lieu de l'union à Dieu, c'est notre cœur. Notre cœur, le lieu où résident les trois facultés de l'âme, notre intelligence, notre volonté et notre mémoire. C'est par ces trois facultés que nous exprimons notre humanité en quête de Dieu, en quête de bonheur, en quête de sainteté. Sainte Catherine de Sienne nous dirait même qu'à travers ces trois facultés de l'âme, nous exprimons ce en quoi nous sommes vraiment à l'image du Dieu Trinité. C'est là, dans notre cœur, à travers ces trois facultés, que Dieu vient à notre rencontre pour venir à notre aide par le don de sa grâce, avec l'aide des trois grandes vertus théologales que sont la foi, l'espérance et la charité. Nous pouvons progressivement approfondir notre union avec Dieu, Père, Fils et Saint-Esprit. Cette dimension trinitaire de notre âme est le reflet de l'image du Dieu trinitaire. Mais le péché des origines, comme l'appelait Jean-Paul II, le péché originel, est venu briser l'harmonie dans laquelle Dieu avait créé l'homme. Le péché originel, comme chacun de nos péchés, est venu briser une quadruple harmonie en chacun de nous. Première harmonie qui a été brisée, l'harmonie entre Dieu et les hommes. C'est Adam qui a peur de Dieu, qui fuit, qui se cache dans le jardin. C'est la perte de la grâce originelle, la perte de la sainteté originelle de nos premiers parents. Il n'y a qu'à en faire l'expérience, chacun d'entre nous. Quand on a péché, on est comme Adam. On n'a plus envie de prier. On a moins envie d'aller à la messe. Et encore moins envie d'aller se confesser. Il faut se faire violence pour revenir. Par les sacrements et les trois grandes vertus théologales, la foi, l'espérance et la charité, Dieu vient nous restaurer dans cette sainteté. Bien plus, dans cette nouvelle alliance, il vient nous unir à lui. C'est tout le sens de notre cheminement de carême. Accueillir d'une façon nouvelle le projet de Dieu sur nous et sur l'humanité. La deuxième harmonie qui a été brisée, c'est notre harmonie intérieure, qui conduit à la division entre notre âme et notre corps. L'unité de notre être a été perdue. Notre âme, dans ses trois facultés, a été fragilisée. Notre mémoire est faussée, notre volonté affaiblie, notre intelligence voilée, aveuglée. Notre mémoire était polluée par nos expériences passées, notre péché, nos blessures. Ayant cherché à être comme des dieux, notre volonté s'est affaiblie et nous entraîne dans des paradis, dans des pseudo-paradis, où nous n'avons trouvé que tristesse et angoisse. Notre intelligence est voilée par une vision déformée de la vérité et du bien, ce qui induit un jugement erroné sur les autres et sur nous-mêmes, et même sur Dieu. La troisième harmonie qui a été brisée, c'est l'harmonie entre nous, entre les hommes. La quatrième harmonie, ça ce sera un autre sujet, hein, c'est l'harmonie entre l'homme et la création. Là, je vous renvoie au pape François, sa belle encyclique, Laudato si. Cette blessure originelle, comme chacun de nos péchés personnels, a laissé des séquelles en nous, une empreinte, dirait le pape François. Là où régnaient la confiance et la paix, la honte et la peur sont venues semer le trouble. Là où l'amour conduisait à l'émerveillement et au don de soi, la perversion du mal a engendré l'envie et la possession. Alors que notre cœur aurait dû trouver sa joie à aimer en se donnant, le péché originel est venu laisser l'empreinte du mal, introduire une crainte en nos cœurs et inscrire en nous une triple concupiscence dont saint Jean nous parle dans sa première lettre au chapitre 2, versets 16 et 17. Alors, ces trois concupiscences sont d'une part la concupiscence de la chair. Le langage du corps qui est au service de l'amour a été perverti pour devenir source de pulsions et de plaisirs divers, affaiblissant notre volonté. La concupiscence des yeux, le regard qui est le reflet de l'âme, a pour vocation de servir la vérité et le bien. Quand il ne saisit plus la vérité, le bien qu'il recherche n'est plus juste et naissent alors des désirs désordonnés dans le cœur. Quand le cœur a perdu sa pureté, il n'a plus la claire vision des choses et ne peut plus voir Dieu. Bienheureux les cœurs purs, ils verront Dieu. La confiance orgueilleuse dans les biens. Alors que l'homme est appelé à connaître Dieu et à garder dans son cœur l'espérance du bonheur, de la vie éternelle, de la vie divine, sa connaissance se limite désormais au bien. Rappelez-vous le jeune homme riche qui repart tout triste car il a de grands biens. Il met sa confiance dans la création, dans son orgueil à vouloir construire son bonheur tout seul. Il perd le souvenir de Dieu et de sa vocation. Et notre péché personnel. Ça va être le dernier petit chapitre, hein, qui se veut une petite aide pour nous à faire le point dans notre vie spirituelle et pour mieux nous confesser. Rappelez-vous le récit du péché originel dans la Genèse. Quand dans le jardin d'Éden, le serpent vient tromper Ève. Après un premier mensonge sur les fruits du jardin, il vient tromper son intelligence, induire en erreur son discernement aveuglé par le mensonge. Notre intelligence est le lieu du discernement, du jugement, de la délibération. C'est là où je juge ce qui est bien et ce qui est mal. Ce qui est intéressant, quand on relit le livre de la Genèse, c'est qu'en voyant le fruit présenté par le serpent, Ève le trouve agréable. Elle ne l'a pas pris simplement parce que Satan l'avait tenté en disant « Vous serez comme des dieux ». Elle a regardé le fruit et elle l'a trouvé agréable. Elle s'est laissée tromper. Ayant accepté de désobéir, elle ne voit plus que le côté plaisant, attirant du péché. On en fait chacun l'expérience. Si le péché n'avait pas un côté attirant, nous n'en ferions pas. Il faut reconnaître quand même qu'il y a toujours un petit côté agréable au péché. Il y a toujours un aspect désirable. Saint Thomas d'Aquin explique que le mal en soi n'existe pas. Il n'y a que le bien qui existe. Dieu n'a créé que le bien et le mal n'est qu'une privation de ce bien, une absence partielle de ce bien. Il manque un morceau. Je vais prendre un exemple. Je sors d'une journée avec les fiancés. Hein. La cohabitation des jeunes. Pour deux personnes qui s'aiment et veulent construire une vie commune, c'est bien, c'est beau, c'est bon de vivre ensemble, de partager leur existence. Pour les époux qui le vivent, c'est bien, c'est beau, c'est bon. Parfois, quand je demande aux fiancés, vous vivez ensemble, c'est bien, c'est agréable, ça vous plaît, vous le voulez? La réponse est oui, heureusement. Et je leur explique, ce n'est pas parce que vous y trouvez un côté agréable, sympathique, que vous avez envie, que vous le désirez, que c'est un mal. C'est un mal parce qu'il manque quelque chose. Vous êtes appelé à vous aimer aussi en enfant de Dieu, dans la grâce de Dieu, dans la grâce du mariage. Lorsqu'on dit que c'est mal pour des fiancés de vivre de leur relation conjugale, de leur vie d'époux avant le mariage, ce n'est pas en tant que tel que c'est mal, c'est parce qu'il manque quelque chose. Il manque la grâce du sacrement. Le mal n'est pas dans ce qu'ils font, mais dans ce qui manque. Le mal est donc cette privation du bien. Revenons à Ève. Elle trouve un aspect agréable à ce fruit. Et alors, naturellement, ce que son intelligence trouve agréable, elle le propose à sa volonté. Ève, et la volonté dit, « Ah, puisque toi, l'intelligence, tu trouves ça agréable, j'en ai donc envie. » Et là, c'est la tentation de la volonté. Notons bien que la volonté est tentée malgré la connaissance. Ève connaît l'interdit. Elle savait que c'était un péché. Elle savait que c'était un mal. Elle se rappelle ce que Dieu lui a dit. Mais à la fin, elle passe à l'acte et prend le fruit. Ce jugement, l'aspect agréable du fruit, devient alors désir. Cela devient alors une tentation de la volonté, malgré la connaissance inscrite dans la mémoire. Car c'est un mal, c'est une désobéissance à Dieu. Alors je reprends un petit exemple. Hein. Je lui trouve un côté agréable à ce carré de chocolat. Pourquoi tu ne le prendrais pas ? Tout d'un coup, ma volonté commence à être touchée aussi. Et alors voilà, une fois que ma volonté me dit « j'en ai envie maintenant », puis que ensuite mon intelligence me dit « bon, si tu en as envie, écoute, ce serait bien d'en profiter ». Et alors enfin, je mange le carré de chocolat. Tout a commencé, en fait, lorsque je me suis arrêté pour trouver ce carré de chocolat agréable. En synthèse, voilà comment cela se passe. Comment on passe de la tentation à la chute ? Le processus du péché peut être décomposé ainsi. Arrive une tentation, peu importe la nature de cette tentation. Hein. Regardez notre carré de chocolat. Je décide de m'arrêter à cette tentation. Oui, c'est là. J'ai vu le carré de chocolat sur la table. Hein. Je décide de m'arrêter à cette tentation en désobéissant. Cela engage ma volonté. J'aurais pu rejeter cette tentation. Je vois le chocolat et je commence à y penser. Je commence à penser à ce carré de chocolat. Je décide de m'arrêter à regarder ce carré de chocolat. Wow. Deuxième étape. Je m'arrête pour regarder ce carré de chocolat. Je trouve cela agréable. Wow. Oh, il est bon, puis il sent bon, là, il est joli, là, il est tout seul, le pauvre. Mon intelligence pose ce jugement malgré le rappel de ma mémoire. Ah, j'avais décidé de faire un effort de carême, de me priver de chocolat pendant le carême. J'avais décidé que ce carré de chocolat, ce serait pour mes enfants ou mes petits-enfants qui passeraient. Je laisse la tentation prendre de la place dans ma tête. Oui. Je le trouve agréable, ce carré de chocolat. Il est bon, hein. Et là, vous voyez, notre volonté, elle est de nouveau engagée. Je décide de me délecter de ce carré de chocolat. Très bien. Alors quand je vais le laisser fondre un carré de chocolat comme ça dans sa bouche, mais... chacun peut s'imaginer autre chose. Hein. Ces tentations, ou ces petits péchés mignons. Hein. Mais oui, tout d'un coup, j'accepte que la tentation... Je vois l'élément tentateur. Je le trouve agréable. Je décide de le laisser prendre de la place dans ma tête. Et là, oui, comment les choses avancent progressivement. Hein. Et donc, du coup, mon intelligence, elle me dit, ben, à force de me délecter de ce carré de chocolat, oh, mais vraiment, ça, c'est du bon chocolat, celui-là. Hein. Il est comme ci, il est comme ça. Là, Mon intelligence me dit, mais je trouve que ce serait bien d'en profiter. Il serait mieux dans ma bouche que simplement dans ma tête. Hein. Cinquième étape. je décide de passer à l'acte. Ça va les cinq étapes? Je vais les reprendre parce que c'est important. Parce que quand vous allez vous confesser, de quoi vous allez parler? Il ne va pas vous dire, Dominique, il est tenu au secret de la confession, mais mon père, j'ai mangé un carré de chocolat. Mais si on regarde, il y avait une étape avant. Tac, tac, tac. Le début du péché, c'est pas j'ai mangé un carré de chocolat. Le début du péché, c'est je me suis arrêté. Et après m'être arrêté devant ce carré de chocolat, je lui ai trouvé un côté agréable. Je sais que je l'ai posé là, ce carré de chocolat, pour le donner à mon enfant, mon petit-fils, ou mon neveu, ou je ne sais pas qui va passer là, cet après-midi. Tiens, je laisse un carré de chocolat de côté, là, quand il est rentré de l'école. Je l'ai mis là exprès. Hein. Puis là, ah, c'est le carré de chocolat. Et là, il a quand même de la chance. Hein. Oui. Et là, je commence à dire, oui, on laisse ce désir du carré de chocolat prendre la place dans notre tête. Et là, l'étape suivante, on décide d'y trouver du plaisir. Mais j'ai rien fait de mal, j'ai fait qu'y penser. Ben non. Hein, vous voyez que quand... Il y a une phrase de Jésus qui est difficile à comprendre. Il nous dit, quand un homme a déjà désiré une femme dans son cœur, il a déjà commis l'adultère avec elle. Il nous parle de ça. Ce qui fait que je vais le manger, mon carré de chocolat, c'est que j'ai accepté quelques secondes avant de prendre du plaisir à penser à ce carré de chocolat. En fait, le péché, ce n'est pas d'avoir mangé un carré de chocolat. C'est d'avoir joui de ce désir dans ma tête. Je me suis mis sur une pente savonneuse et je m'étonne d'avoir glissé, de m'être cassé la figure. Et c'est pas mon père, je m'accuse d'être tombé sur une pente savonneuse. Je me suis mis sur une pente savonneuse. Parce que je l'ai trouvé agréable et que j'ai accepté. Je me dis, oh, ça va être rigolo de glisser là-dessus. Qui d'entre nous s'est déjà accusé en confession simplement d'avoir désobéi à Dieu? Hein, c'est le point de départ de chacun de nos péchés. Le point de départ de nos péchés, c'est j'ai désobéi à Dieu. Et parce que j'ai désobéi à Dieu, j'ai cherché dans mon cœur à trouver du plaisir, des choses agréables. Voilà. Donc, mon ouvre-moi, oui, à l'Esprit Saint, qui nous aide, pendant ce temps de carême, peut-être, hein, voyez, à revenir à la racine de notre cœur, déjà à la racine de notre péché, qui est cette désobéissance qui nous fait... trouver des choses agréables qui ne sont plus justes, pour que nous puissions peut-être revenir au cœur même de notre vocation d'aimer à la mesure même de l'amour de Dieu, cet amour qu'il veut nous donner en son Fils.